2021, Antoine Baduel reçoit Polo & Pan.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le duo français Polo & Pan de la jungle aux dunes du Sahara. Le duo Polo & Pan voyage partout dans le monde avec ce nouvel album Cyclorama. Un album dans lequel figure bien évidemment un morceau que vous avez peut-être entendu au moins une fois dans votre vie. L'hymne de l'été 2021, Annie Cooney, voyage dans le temps, mais aussi dans l'espace, parce que cet album, il a des goûts sucrés, un petit peu avec des goûts d'enfance, et en tous les cas, ceux de Paul et Alexandre, assurément, puisque ce sont mes invités ce soir de l'Happy Hour. Alexandre, Paul, bonsoir, bienvenue sur FG, ça me fait très plaisir de vous avoir dans l'Happy Hour.
Bonsoir, on est ravis d'être là.
Bah, plaisir partagé les garçons, quel plaisir en tous les cas de vous recevoir pour parler à la fois de ce single, du succès de d'Annie Cooney, parce que vous êtes présenté comme le nouveau duo, le duo électro du moment, celui qui distribue surtout des sourires aux gens, et je pense qu'on en avait grandement besoin, surtout après cette période un peu tourmentée. Alors j'imagine que la période est plutôt agréable pour vous. Vous êtes sur un petit nuage artistique, ça se passe comment l'après-été ?
C'est un été effectivement où on a été complètement chamboulé et honoré de voir que Annie Cooney a décollé. Hein, il a pris sa petite fusée spatiale et c'était super. Après nous, c'est vrai qu'on en garde un petit peu sous le capot parce qu'on prépare vraiment nos lives actuellement pour décembre. Mais quel bonheur d'ailleurs d'être invité par chez FG ce soir.
Et quel bonheur surtout de parler de, finalement j'allais dire, de tout ce projet, de tout cet album Cyclorama, parce que honnêtement, pour Annie Cooney, c'était sur le papier, c'est ça qui est extraordinaire, parce que cet été 2021, il y a eu des titres comme le vôtre, mais aussi par exemple le Shouse avec Love Tonight, à chaque fois des titres au départ sur le papier, on pourrait dire finalement c'est un morceau qui, quel public va-t-il rencontrer, et pour autant c'est tout le contraire, le succès devient finalement viral et il a surpris les gens au départ. Dès le début, vous sentiez que c'était le morceau au fort de l'album?
C'était un pari quand même. On l'a traité comme un single. On l'a sorti en premier en se disant que c'était un single potentiel, mais c'était on savait vraiment pas quelle vie il aurait avec le public et quel public il rencontrerait. Et le fait que ça s'ouvre à des radios plus populaires, qu'on soit aujourd'hui sur FG ou je cite des concurrents mais Fun ou Energy ou des choses comme ça, c'était pas du tout notre réseau avant. Donc ça s'est vachement ouvert. On a rencontré un nouveau public en faisant quelques festivals et c'est super pour nous, on est trop contents. C'est pas forcément ce qu'on essayait de faire, mais c'est ce qui s'est passé et on en est ravis.
Alors l'album Cyclorama, c'est aussi un voyage dans le temps, mais aussi dans l'espace, avec il y a une valse de sentiments, une valse finalement de d'esthétique, hein, avec des titres parfois plus euphoriques, parfois plus dansants, d'autres qui sont plus posés, presque cinématographiques, je pense à Requiem ou Bill Bokeh. On sent une vraie jouissance artistique, hein, dans la manière de l'entendre, ça part aussi un peu dans plein de directions, c'est ça qui est intéressant. Elle s'est passée comment du coup la conception de l'album? Est-ce que justement ça a été une jouissance, une partie de plaisir de A à Z, ou est-ce qu'au contraire au bout d'un moment il y a une petite pression, finalement cette liberté qu'on ressent, ça a été aussi du stress pour les artistes qui l'ont conçu?
En fait c'est toujours aussi en termes de risque, c'est faire des albums plutôt que faire des singles, donc c'est raconter vraiment une histoire et il faut que chaque élément de l'histoire ait un sens pour nous. Donc,
qu'il y a un vocabulaire aussi entre les morceaux, hein, je pense. C'est ça qui est important.
Exactement. C'est-à-dire qu'il fallait trouver du lion à toutes ces musiques qu'on avait créées, parfois à distance, parfois. Enfin voilà, il y a eu ce Covid, il y a eu cette manière aussi d'être séparés et d'être à l'unisson. Et nous, en fait, on était très contents de pouvoir raconter une histoire. Voilà.
Et vous étiez séparés justement pendant la période du confinement, ou alors vous êtes mis en bulle ensemble pour produire?
L'album, on l'a écrit un peu sur la route. En fait, toutes les maquettes viennent de notre tournée, et donc déjà, ça donne ce côté un peu. Ça va dans toutes les directions. En fait, on s'est pas vraiment limité. On sent qu'il y a pas forcément une cohérence à la base. La cohérence vient plus ensuite d'un travail ensemble de production, d'essayer de trouver un son, une patte, une couleur. Mais effectivement, le début du confinement, on a été séparés. Puis la deuxième partie, on s'est retrouvés. Et voilà, c'était un moite-moite.
Alors, je le disais, un cyclorama, c'est un carrefour avec des flèches pour indiquer quelque part 1000 directions. Pour autant, les sonorités, le Annie Cooney le montre parfaitement. C'est vraiment intéressant parce que c'est un vrai métissage. Et ça, je trouve que c'est vraiment bravo en tous les cas. Est-ce que vous, justement, pour nourrir vos influences, vous êtes des grands, grands auditeurs de musique du monde?
Oui, enfin en tout cas, on a un spectre très très large de la musique. Ça peut être musique du monde, mais ça peut être musique des époques. On peut écouter.
Bien
aussi,
sûr, parce que c'est aussi un voyage dans le temps. Hein, c'est ça qui est intéressant.
Ouais, le premier album était vraiment un voyage dans l'espace, et celui-là est plus un voyage dans le temps. Je pense que le Covid encore une fois nous a permis d'appuyer sur pause et de contempler un peu le temps, de regarder un peu avec du recul ce qu'est être un homme ou une femme, un être humain. Et on a voulu rendre hommage à tous les passages de la vie, de la naissance à la fin de la vie justement, et après qu'est-ce qui se passe, il se passe aussi des choses.
Et l'après, alors pour l'instant, on est bien en vie, on va s'écouter justement l'extrait de l'album Cyclorama, c'est Annie Cooney qu'on écoute tout de suite, et puis on est de retour dans un instant avec les Polo & Pan qui nous font le plaisir d'être à nos côtés ce soir en direct dans les studios de Radio FG. Il est 18h54, et notez qu'à 19h ce soir, Mousti sera en mix live depuis son home studio à Hanovre. Belle soirée à toutes et à tous. Les Polo & Pan, mes invités ce soir sur FG, ils ont cartonné tout l'été avec Annie Cooney et surtout avec leur album, hein, Cyclorama, un album extrêmement riche qui nous fait voyager à travers les esthétiques mais aussi à travers les époques. Alors les garçons, on parlait de cet album, hein, Cyclorama, et à l'écoute, moi je me suis fait une réflexion, c'est que votre musique, elle est purement électronique, elle est même club à certains égards, comme si vous vouliez non pas nous emmener sur le dance floor, mais finalement mettre de l'électro et imposer l'électro à tous les endroits où on n'y pense pas forcément, de la jungle au sable, en passant par l'univers urbain, les rues, le trottoir, les endroits, les quais des fleuves. Est-ce que justement vous avez ce rapport-là à l'électro, c'est-à-dire cette idée de nous faire perdre la notion du temps, mais aussi de l'espace où on la consomme?
Bah, c'est vrai que à l'origine, et nous on s'est rencontrés dans le clubbing entre guillemets.
Ah, vous vous êtes rencontrés en club tous les deux.
On s'est rencontrés au Baron, qui était un club qui n'était pas si
un
loin.
Un club très parisien, il faut le dire, très enjoué pour la musique, très intéressant.
Oui, et où
vous étiez résidents tous les deux aussi.
Ouais. Ah, vous étiez résidents.
Ah, ouais. Les deux au Baron. Ouais.
Et c'était pas un club où le DJ, justement, on venait voir le DJ. Le DJ, il essayait de créer une ambiance et il se mettait un peu en retrait. Et ça nous a permis, en fait, de passer énormément de choses diverses et variées. Mais on voyait qu'en fait, on peut passer tout ce qu'on veut en clubbing. Et c'est peut-être de là aussi où on s'est dit, ben, pourquoi on ne trouverait pas une logique, une cohérence à travers un squelette électronique, mais finalement, on pourrait assouvir tous nos fantasmes musicaux qui sont très larges et nombreux, et on pourrait faire de l'électro un peu partout, quoi.
Et en matière de fantasmes électro, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la notion de la langue. Parce que votre musique, on le disait, elle est inclassable, mais on pourrait dire électropop, et finalement, quelque part, on s'en fout, parce que je pense que c'est pas important, enfin, c'est très important pour certains journalistes, mais pas ici, de classifier forcément les genres musicaux. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est le cosmopolitisme de ces créations. Vous vous nourrissez de plein de langues aussi, parce que certaines productions sont chantées en anglais, d'autres en français, en brésilien. Ça vous rend aussi singulier. C'est quoi l'objectif? C'est aussi de conquérir d'autres publics en allant leur parler directement, parce que finalement, souvent les artistes français tournent le dos à toutes les autres langues pour ne s'exprimer qu'en anglais. C'est vraiment pas votre cas, quoi.
Mais il y a une musicalité aux différentes langues, et c'est vrai que le brésilien, par exemple, la bossa nova, c'est une langue qu'on trouve magnifique et qui nous a toujours attiré. La chanson française, ça nous habite aussi, donc écrire des chansons en français, c'était comme un défi de réussir à moderniser certaines références.
Et c'est pas facile.
C'est pas facile, justement.
Mais en revanche, quand c'est réussi, franchement, ça sonne très bien.
Exactement, on a longtemps travaillé pour obtenir des chansons comme Plage Isolée ou Canopée au début, et puis voilà, on a découvert un peu comment on pouvait écrire dans notre style et en français. Et puis l'anglais, bon, moi je suis franco-américain, donc il y a aussi des références en anglais. Sur Dorothy, dès le début, il y avait le magicien d'Oz en référence visuelle, un peu de psychédélisme et l'utilisation de l'anglais. Donc voilà, chaque langue peut apporter quelque chose. Il y a un bagage culturel quand on utilise une langue. Et sur Mexicali, c'est du mexicain, c'est de la cumbia, donc c'est la langue naturelle qui va fonctionner.
Et j'imagine qu'il y a forcément aussi une incidence sur la production, parce que la manière dont on s'exprime, c'est aussi la manière dont on va écouter la musique, et on la consommera pas de la même manière selon que c'est chanté en français, en anglais ou en brésilien. Alors du coup, pas étonnant de vous voir multiplier les concerts à l'étranger, les États-Unis, le Mexique, le Canada. Vous avez le sentiment d'être aussi les nouveaux ambassadeurs d'une certaine French Touch 2 ou 3.0 ?
En fait, c'est vrai que on a beaucoup travaillé aussi pour. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé aux États-Unis par hasard. On a fait 4 tournées. On a commencé dans des petites salles avec principalement que des Français.
Des clubs ou des salles?
On a fait beaucoup de salles, parce qu'on a essayé vraiment de créer un spectacle. Au début, nous on vient du DJing, mais on s'est dit on a envie de proposer quelque chose où on chante, où on fait des instruments, voilà. Ce qui était un challenge pour la musique éclectique qu'on fait. Et au final, on a beaucoup travaillé sur les territoires aussi, voilà, avec nos tourneurs. Et donc,
et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a vraiment fait le côté salle, parce que les Américains, ils sont moins connaisseurs en musique électronique et ils aiment les concerts. Mais que quand on va plus au Moyen-Orient, au Liban, à Tel Aviv ou à Istanbul, on a fait que des DJ sets, on a développé les territoires comme ça.
Oui, parce que la tente n'est pas la même, oui, bien
nous,
sûr.
Nous, on adore les DJ sets et ça nous fait toujours kiffer de retrouver ce rôle de DJ où on a beaucoup plus d'expérience. Au final, ça fait 20 ans qu'on est DJ et on se marre vraiment en faisant ça aussi.
Avec leurs couteaux et leurs peignes, les Polo & Fans sont des archéologues de la musique explorant le temps et le monde. En tous les cas, ils nous livrent leur hiéroglyphe avec un album Cyclorama qui, par chance, utilise le langage universel, c'est celui de la musique, mais ils aiment bien aussi, avec beaucoup de dextérité d'ailleurs, jouer avec les langues. Le duo Polo & Fans en pleine tournée, puisqu'il y a deux dates à l'Olympia qui sont déjà sold out, d'où une nouvelle date parisienne qui sera au Zénith, ça sera en novembre 2022. Et comme on parlait d'éclectisme, et pour finir, je dirais même qu'il y a un morceau très intéressant, c'est Tunnel dans l'album, qui lui est une autre expérimentation avec quelque chose de plus urbain. Ça va peut-être être, ça sera le propos du plaisir et le plaisir de vous inviter bientôt pour en parler, une nouvelle carte à abattre qui sera peut-être une nouvelle esthétique. Merci en tous les cas, les garçons. C'était un plaisir de vous accueillir ce soir. À très bientôt sur FG. Donc, Paul et Alexandre du duo Polo & Fans qui nous ont fait danser tout l'été avec Annie Cooney. Merci beaucoup en tous les cas.
Merci Antoine.
Juin 2017. Antoine Baduel reçoit David Guetta.
Bonsoir David.
Bonsoir.
Alors, ce titre To You m'a surpris parce qu'il a un petit côté lover, c'est très intéressant, il est romantique, pas forcément très happy d'ailleurs sur certaines parties de l'album, malgré ce rythme général. Je trouve que c'est assez inédit justement ce côté émotionnel, ce qui veut dire que tes précédents titres n'étaient pas insensibles évidemment, mais est-ce qu'il y a une nouveauté avec To You ou alors un retour aux sources ?
Non, c'est plutôt un retour aux sources, mais d'une nouvelle manière, c'est-à-dire que j'essaye de retourner à l'essentiel, pourquoi les gens m'ont aimé. C'était toujours mon côté rassembleur, de faire une musique qui rend les gens heureux, l'unité que j'essaie de créer, de rassembler des gens qui sont pas forcément a priori faits pour être ensemble, que ce soit sur des disques ou sur les dance floors. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait là avec finalement une chanson qui pourrait être une balade.
Ouais.
Et puis c'est une chanson d'amour, sauf que quand ça drop, ça envoie fort quoi.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est cette balance entre les deux, ces deux aspects romantiques, chantés d'un côté, très rythmés de l'autre. C'est le mix parfait d'ailleurs finalement, pour à la fois truster les playlists des radios et en même temps celle des clubs.
Exactement, ouais, c'est ça. Mais parce que moi en fait, au début, quand j'ai commencé à faire de la musique, je voulais juste faire danser les gens. Après, de plus en plus, je me suis intéressé aux chansons. Et puis, j'aime maintenant réussir à faire les deux en même temps, c'est-à-dire d'avoir des vraies chansons avec une vraie émotion et avec une musique qui soit un peu plus compliquée que les quatre accords qu'on peut entendre toujours dans certains morceaux d'IDM. Et puis en même temps que quand ça drop, t'as vraiment envie de danser, voilà, et avec des nouveaux sons. Et je trouve qu'il y a vraiment un groove nouveau dans ce morceau.
Alors un groove nouveau, on peut le dire aussi, c'est tout un travail parce que l'émotion, elle se communique à travers les voix, évidemment. Également, voir Justin Bieber te faire la surprise de chanter sur un de tes titres, d'ailleurs ça ne se refuse pas. Est-ce qu'on va, et on en parlera dans un instant, mais ton futur album sur lequel tu travailles, il sera fait de cela, c'est-à-dire à la fois l'amitié, les surprises, des collaborations, des comebacks, de la fidélité, ça sera ça les valeurs ?
Oui, alors c'est sûr qu'il y a des gens que j'adore. On a vu, j'ai refait un titre avec Nicki Minaj. Tu me posais la question tout à l'heure, donc oui, effectivement, il y aura certainement quelque chose avec Sia parce que c'est peut-être mon artiste préféré dans le monde. Et puis parce qu'on a vraiment une histoire ensemble. Et puis après aussi plein de gens nouveaux, voilà. Et je produis un peu aussi pour d'autres artistes. À la fin du mois, il va y avoir une grosse surprise. J'ai produit un titre dont je suis super fier avec un artiste avec lequel j'avais jamais travaillé. Je peux pas vous dire qui, mais bon, vous saurez le 30. Voilà.
Donc ce sera pour le 30 juin. Donc ce qui veut dire qu'il y a véritablement, et ça c'est ça qui est très intéressant. Alors là pour le coup, une approche nouvelle. On n'est pas forcément dans l'approche que du single qui sort après le suivant en vue d'un album.
Absolument.
T'as
vu qu'il y avait le titre avec Afrojack aussi.
Exactement.
Voilà. En fait, si tu veux, et c'est pour ça que j'étais absent pendant un moment aussi, en dehors de ce qu'on avait fait pour l'Euro, j'étais vraiment dans une période de recherche, en fait, et d'expérimentation sonore. Et puis là, je crois que ça y est, j'ai trouvé mon nouveau son, donc et même plusieurs nouveaux sons, donc ça va être sympa de faire découvrir ça aux gens.
Surtout You, il faut aussi le dire, il y a une vidéo qui est absolument sublime, des jolies filles, celle de Victoria's Secret qui livre une vidéo en lip sync, c'est-à-dire qu'elle chante en playback en fait sur le morceau qu'elle s'approprie. Elles sont sympas, hein, Stella, Sarah, Elsa, Jasmine.
Très sympa, j'étais super content qu'elle veuille faire ça. C'était C'était une bonne surprise.
Est-ce que ça prépare justement aussi un autre univers iconographique, j'allais dire, pour les prochains clips, pour les prochains...
Ouais. Ben en fait, t'as vu, une nouvelle coupe de cheveux, nouvelle barbe, tout nouveau. On fait tout nouveau.
David, ça fait 3 ans maintenant que tu as sorti l'album Listen, qui avait confirmé ta place de numéro 1. Je sais que tu prépares évidemment le nouveau. Mais ça fait longtemps que tu gamberges, que tu esquisses, que tu dessines ce que sera ce nouvel album. Ça fait longtemps que ça te prend la tête.
Ah ouais. Là, mais je crois que c'est la fois où je me suis pris le plus la tête. D'abord, je voulais juste dire, ça me fait vraiment quelque chose d'entendre To You à la radio ici à FG, parce que c'est la première fois que j'entends, et comme j'ai fait le début de chacun de mes morceaux ici, donc super. Depuis Just a Little More Love, on a poursuivi la tradition. C'est un moment qui est en même temps un peu angoissant, parce que c'est un moment de changement. Mais qui est en même temps super intéressant, parce que j'ai vraiment l'impression que ce qui ressort, ce qui a du succès, c'est vraiment tous les morceaux qui font preuve d'originalité. Donc c'est un moment pour les gens qui sont créatifs, de grande liberté, et ça, moi je suis très content.
Alors une chose est claire, tu parles de changement. Évidemment, il y a des changements personnels, il y a des changements de look, il y a des changements
non,
de
non,
création.
Non, mais je parlais surtout
des changements dans la musique.
Bien c'est sûr, ça dont je parlais.
Parce que les changements dans la musique, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que pour la première fois depuis longtemps, l'électro ne s'écoute pas de la même manière aux États-Unis qu'en Europe. En Europe, on a eu la vague deep house. En ce moment, c'est la tech house. Aux États-Unis, c'est le trap. Et finalement, c'est vrai qu'il y a encore 5 ans, tout le monde écoutait ce son très formaté qui était l'EDM, qui pour autant existe toujours. Est-ce que ça a été une des raisons de tes prises de justement de tête, de réflexion sur quelle direction il fallait?
Non, mais absolument. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, à partir de 2009, quand j'ai fait toute la série de I Got a Feeling, When Love Takes Over, Sexy Beach, etc., on a eu 10 ans d'une musique où on pouvait passer la même chose en club, en festival, à la radio, et où c'était la même musique aux États-Unis et en Europe. Chose qui n'est jamais arrivée. Et en fait, aux US, là, on est retourné en arrière à la situation pré-2009, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 communautés complètement séparées. Allez, le hip-hop qui est très très fort
et qui est revenu en force
et qui mais vraiment vraiment énorme
et c'est, pardonne-moi, c'est du hip-hop hein, c'est pas du R&B hein, qui est
revenu. Oui, absolument. Et puis alors et avec un phénomène assez intéressant, parce que un côté rockstar qu'il n'y a jamais eu dans le hip-hop, c'est-à-dire avec des rappeurs qui s'habillent de manière un peu efféminée, skinny jeans, qui prennent des drogues qui existaient plutôt dans les rêves avant, plutôt que dans la communauté rap, puisqu'avant c'était plutôt fumer de la weed et tout ça, et donc avec une attitude qui est super rock'n'roll, donc ça c'est aussi complètement nouveau, et puis t'as aussi un côté EDM qui s'est transformé en un peu trap à la Chainsmokers, qui est très très fort. Et à part ça, moi, ce que j'observe, même à Ibiza, par exemple, c'est qu'il y a à nouveau vraiment une scène underground très forte et une scène qui est complètement pop. Mais il n'y a plus cette espèce de mouvement musical dont je fais partie des gens qui avaient créé ça, qui était quelque chose qui arrivait à rassembler tout le monde. Donc, c'est pour ça que, effectivement, c'est un moment où il faut vraiment trouver sa place, quoi. Mais c'est bien, parce qu'il y a plein de nouveaux talents qui ont émergé, et j'ai l'impression que les gens sont prêts à écouter des choses nouvelles. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris certains risques en termes de production, et je suis content de l'avoir fait.
Alors, évidemment, en termes de production, en termes de collaboration aussi, forcément, ça ouvre le champ des possibles. Ce nouvel album, tu le conçois autour de quoi? C'est la volonté d'imprimer quelque chose de nouveau au niveau des voix, des collaborations également?
Écoute, j'en suis même pas encore là. Hein. Je suis vraiment au niveau pour le moment. J'écris les chansons, je les produis, et finalement, c'est plutôt à la fin que je vais voir les artistes en leur proposant les morceaux. Il y a 2-3 morceaux que j'ai déjà enregistrés, mais sinon, je suis pas encore prêt à sortir l'album là. Hein. Non.
Une chose aussi qui a beaucoup changé en 5 ou 10 ans, c'est évidemment la consommation de la musique. Aujourd'hui, les plateformes de streaming ont totalement changé. Est-ce que, en tant qu'artiste, on pense du coup différemment sa musique? Jusque-là, on avait tendance à dire, il y a les radios, il y a les festivals et les clubs. Comment on gère aujourd'hui la consommation de musique avec le streaming? Ça a changé ta manière de la concevoir?
Ah bah t'as tout à fait raison parce qu'aujourd'hui tu peux même faire des morceaux qui sont plus P mais qui sont on va dire Deezer et Spotify friendly et ça peut cartonner. Et t'as aussi un nouveau phénomène, c'est que comme ça va beaucoup plus vite, tu n'es pas obligé avec les gens qui écoutent en streaming, tu n'es pas obligé d'attendre des cycles de 4 à 6 mois pour sortir des nouveaux morceaux. Tu peux sortir plein de morceaux. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'ai fait le titre avec Afrojack, que je fais en même temps.
Le morceau surprise du 30 juin.
C'est ça. C'est pour ça que je peux me permettre ça. Parce qu'avant, on était toujours dans la problématique de radio qui ne pouvait pas jouer plusieurs morceaux en même temps. Mais nous, c'est hyper frustrant parce que quand tu fais des morceaux, tu as envie qu'ils sortent. Et de devoir attendre. Et quand t'attends au bout d'un un an et demi, le morceau, évidemment, la prod, elle est pas aussi fraîche qu'au moment où tu l'as fait. Donc c'est assez frustrant. Donc le fait qu'aujourd'hui on puisse sortir de la musique très très vite, parce qu'elle est consommée très vite, c'est, je trouve, pour la création, quelque chose de bénéfique.
Donc ce qui veut dire que toi qui es débordé au niveau évidemment des dates et de ton album, il faut s'attendre, comme le projet par exemple Afrojack, comme le projet dont tu nous parlais, Surprise du 30 juin, à avoir comme ça d'autres morceaux où tu ne seras peut-être pas forcément en frontline, voire que tu n'apparaîtras qu'en featuring.
Exactement. Ouais.
Un petit mot rapide, David, avant de finir, évidemment, sur la saison qui démarre à Ibiza. Tes résidences, Pacha, Ushuaïa, toujours Pacha, ce soir, le jeudi, pour la Fake Me I'm Famous. Ushuaïa, le lundi soir. Alors là, il faut s'attendre plutôt à des sets TKO, d'après ce que je comprends.
À
des sets avec beaucoup de TKO.
Oui, alors ce qui est assez intéressant, surtout d'ailleurs au Pacha, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que quand j'étais aux États-Unis, alors j'ai toujours un choc quand je reviens parce que vraiment aujourd'hui la musique est très différente. Comme je le disais tout à l'heure, on a eu une période où, que ce soit aux US ou en Europe, c'était un peu la même musique. Aujourd'hui, c'est comme tu disais, c'était très... C'est quand tu veux jouer, on va dire, un petit peu plus pointu, je joue beaucoup de trap depuis 2 ans déjà à Vegas. Alors que à Ibiza, cette partie qui était un peu plus pointue trap, que je la remplace par une partie qui est un peu plus, on va dire, tech house, voire techno, même au Pacha, et je peux me le permettre. Et c'est assez sympa pour moi de pouvoir rejouer comme je jouais à l'époque à Scream, quoi. Voilà.
Janvier 2021. Antoine Baduel reçoit Warhackles.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Warhackles. On connaît l'amour que Warhackles porte pour les musiques symphoniques. Le producteur français nous l'a prouvé lors de son premier album Warhackles Orchestra, ou encore cet été avec la bande originale du documentaire Sur le front des animaux menacés. Il nous le confirme une nouvelle fois avec son tout dernier single Storm, produit en collaboration avec Rosanda Pamphili, la première soliste de Hans Zimmer. Et ce soir, Warhackles est mon invité sur Radio FG. Warhackles, bonsoir. D'abord, tous mes meilleurs voeux. Bonne année à toi, plein de bonnes choses et surtout bienvenue sur FG.
Salut Antoine, salut à tous. Meilleurs voeux à tout le monde, évidemment. Santé, bonheur, amour, tout ça.
Alors Kevin, pour ceux qui ne connaissent pas ton travail artistique, tu as toujours aimé jongler entre musique électronique et musique symphonique. D'où te vient justement cette envie de toujours vouloir mixer ces deux univers qu'on pourrait penser antagonistes au départ et finalement qui ne le sont pas du tout?
Alors si tu veux, moi j'ai une formation classique, donc en fait je reviens un petit peu aux sources dans mon parcours. C'est-à-dire que d'abord j'ai commencé par le classique, puis ensuite j'ai appris à aimer l'électro. Et donc forcément, naturellement, j'ai envie de mélanger les deux. Mais je trouve effectivement qu'il y a un côté émotionnel un peu plus chaleureux dans la musique orchestrale et une énergie un petit peu plus présente dans la musique électro. Et donc j'ai tout simplement envie d'allier les deux pour en tirer le meilleur.
Storm, c'en est l'exemple parfait d'ailleurs, puisque tu l'as produit en collaboration avec Rosanda Pamphili, qui est la première soliste du célèbre compositeur Hans Zimmer. C'est lui qu'on retrouve d'ailleurs derrière les bandes originales des plus grands films, Interstellar, Inception, The Dark Knight. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler ensemble sur ce single, Kevin?
Eh bien, en fait, ça s'est fait... Comment ça s'est fait? En fait, si tu veux, il passait à Paris, à Bercy, et puis, du moins, à l'Accord Hotel Arena. Et du coup, j'étais invité donc à passer les voix, en fait, en backstage. Et puis, on s'est rencontrés à ce moment-là. Je suis désolé, j'ai mon chat qui miaule en même temps.
C'est une autre symphonie, quelque part, tu me diras.
Oui, tout à fait, c'est aussi joli. Et du coup, en fait, donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et donc, évidemment, moi, je suis un grand fan de ce que fait Hans Zimmer. Et les musiciens qu'il choisit sont évidemment excellents. Et donc, on a beaucoup accroché avec Roussanda et aussi avec, avec Gania, avec qui on a fait aussi un autre titre qui arrive bientôt. Et donc, sa chanteuse. Et donc, en fait, si tu veux, on s'est posé en FaceTime. Du coup, malheureusement, on n'a pas pu se retrouver pour l'instant. Mais voilà, on a écrit ce morceau ensemble. Et c'est vrai qu'on l'a pensé, un petit peu comme... voilà, comme si on devait traverser une tempête, un petit peu, voilà, un peu comme ce qu'on vit en ce moment, en fait, hein. Et donc, si tu écoutes le morceau, tu pourras ressentir le fait qu'on commence vraiment un genre de voyage depuis les gros nuages noirs qui grondent au départ jusqu'à l'éclaircie de la fin avec le soleil qui transperce les nuages. Enfin, du moins, c'est ce qu'on a essayé de rendre au travers de la musique, quoi. Et donc, voilà, une belle histoire, une belle collaboration en tout cas pour ma part, et je suis vraiment content et j'ai hâte d'en refaire d'autres avec elle.
Alors, on parlait du compositeur Hans Zimmer, et toi tu as aussi réalisé la bande originale d'un documentaire, sur le front des animaux menacés, présenté par Hugo Clément. Est-ce que c'est un exercice que tu as envie d'approfondir également ?
Bien sûr, j'adore ça, j'adore la musique à l'image. J'ai d'ailleurs quelques propositions pour en faire en 2021 et je suis hyper content de ça. D'ailleurs, je vais en faire aussi pour les sur le front, je vais en refaire. Hugo est devenu un copain, vraiment un ami, et donc et puis la cause qu'il défend, je l'approprie aussi parce que je suis complètement en accord avec ce qu'il défend, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il représente, etc. Donc voilà, pour moi c'est vraiment parfait, en fait, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en faisant la musique pour ce genre de documentaire, de reportage. C'est vraiment top.
Alors, pour finir, on vient de passer en 2021. Quelles sont tes résolutions, ou du moins qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle année ?
Cette nouvelle année, j'espère qu'on pourra refaire des concerts. J'espère avant tout quand même qu'on arrivera à se débarrasser du corona et qu'on pourra rouvrir les salles dans de bonnes conditions, parce que c'est pas le tout de rouvrir les salles, il faut les rouvrir sans que ça mette en danger la vie des gens. Et moi j'attends d'un point de vue personnel toujours plus de collaboration, de musique, que ce soit à l'image ou pas, et voilà, et continuer ma route tranquillement.
Novembre 2012. Antoine Baduel reçoit Synapson.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un duo de jeunes DJ producteurs français, les Synapson. Ils sont beaux, chic, ils sont deux, ils sont un peu dandy aussi. Vous avez connu d'ailleurs ce duo Synapson sur FG grâce à leur titre qui s'appelle Sentimental Affair, le si bien nommé. Au propos justement de Synapson, et c'est pour rappeler à la fois les synapses, c'est-à-dire les neurones qui se connectent, le duo utilise son cerveau, si vous préférez, et ça s'entend d'ailleurs dans ses productions, ils aiment intellectualiser la musique. Alors, Synapson vient de sortir d'ailleurs un tout premier album qui s'appelle Stendhal Syndrome, et ils sont là pour nous parler de tout ça. Bonsoir à tous les deux. Paul et Alexandre, bienvenue sur FG pour
Merci
votre
beaucoup.
Première dans la Happy Hour. Alors, on ne vous connaît pas encore très très bien. On sait que vous êtes un duo parisien amoureux de Biarritz. Est-ce que c'est tout pour vous présenter ? C'est un peu limité, hein, quand même.
Oh, c'est un bon début, ça. Non, ouais, donc Synapson, voilà, ça fait... Moi, quand je suis arrivé à Paris, on a commencé à bosser en s'enfermant en studio avec Alexandre. Ensuite, c'est la rencontre avec Dies Music et Victor Productions, qui sont nos co-éditeurs producteurs, qui a lancé vraiment l'aventure. Et puis, plusieurs EP sur iTunes. Et là, un premier album avec une distrib physique et digitale. 11 titres dont on est assez fiers, je crois. Voilà.
Alors, 11 titres dans un album qui s'appelle Stendhal Syndrome, dont est extrait d'ailleurs le fameux Sentimental Affair qu'on va écouter tout à l'heure, qui est playlisté sur FG. Alors, qu'est-ce que c'est ce Stendhal Syndrome, cette mystérieuse maladie ? C'est le syndrome de l'écrivain maudit ? C'est quoi, alors ?
Je vais laisser Paul expliquer ce titre, puisque c'est lui qui l'a trouvé.
Allez, vas-y, Paul. Puisque tu intellectualises tout,
c'est un pote qui m'a expliqué la définition au moment où on cherchait le titre de l'album. Et en fait, Stendhal Syndrome, c'est le syndrome ramené par Stendhal de son voyage, alors je vais pas dire de bêtises, hein, en Italie.
Wikipédia, bonjour.
Voilà. non, et en fait, le Stendhal syndrome, c'est une espèce de, une sensation de transe, d'extase face à.
Ah ouais, d'accord, alors, pas l'écrivain maudit, c'est carrément.
Non, mais c'est
l'écrivain en after.
Ah ouais.
J'aime bien les rires en bas.
Non, c'est des vrais, t'as vu. C'est lui qui est ventriloque. Alors, dis-moi, votre musique, que ce soit avec Sentimental Affair ou alors le dernier single qui s'appelle Vertige, oui. Qui est une électro vachement. Enfin, c'est toujours une électro qui est très classieuse, qui est très mélodieuse, j'allais dire. Alors, comment vous qualifieriez l'album? Est-ce que c'est justement vers des mots comme ça? C'est plutôt une électro, plutôt non, classieuse, alors, plutôt mélodieuse?
Mélodieuse, c'est une bonne idée. Ouais. Enfin, c'est un,
on part surtout. On a voulu se pencher un peu vers un univers électro, puisque c'est finalement ce qui nous a là où on s'est retrouvé, parce qu'on vient pas du tout du même univers. Mais on a voulu garder quelque chose de très mélodieux, de jouer pas mal avec les harmos, d'avoir, de vraiment créer une ambiance sur chaque son. Alors bon, il y en a qui vont tendre vers quelque chose de peut-être plus latino comme Oversea, d'autres un peu plus pop comme Sentimental et d'autres plus péchus comme Vertige. Mais on veut vraiment rester dans quelque chose de mélodieux, quoi.
Alors c'est drôle parce que le clip de Vertige que j'ai regardé tout à l'heure, alors lui ressuscite carrément le voguing des années 90 de Madonna. La vidéo est d'ailleurs à mourir de rire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce morceau et justement cette vidéo qui l'accompagne? Il y a vraiment une volonté de créer un univers aussi graphique, visuel autour de toutes vos productions?
Ouais, carrément. Déjà avec notre graphiste Sistart, dès le début, ça on a eu la chance, parce que quand on a commencé, on était vraiment des débutants. On a eu un graphiste, donc il nous a de suite offert une identité visuelle. Et à côté de ça, grâce à Dièse Musique, on est parti faire nos premiers clips à New York, alors qu'on était tout petit encore. Et c'est là-bas qu'on a découvert et qu'on nous a parlé du voguing. Et puis voilà, on a trouvé ça assez cool, ça transpirait un peu New York. Allez voir le clip d'ailleurs, hein, je vous encourage à aller voir le clip de Vertige sur YouTube, parce que le personnage, le danseur, t'as vu, il est quand même assez atypique. Et puis du coup, on a parlé de voguing, on s'est un peu renseigné sur le truc, et avec Vertige qui est assez rectiligne et qui frappe assez droit, on a trouvé qu'éventuellement ça pouvait faire une bonne combinaison.
Et ce soir, ce sont les Synapsons qui sont mes invités. Alors, Paul, Alexandre, on vous présente souvent comme de vrais dandys. Alors, du coup, je vais vous administrer l'interview dandy pour voir si vous ne nous trompez pas sur la marchandise. Le lieu que vous fréquentez le plus à Paris, c'est le Wanderlust, le Social Club ou le Baron?
Le Hola. Silencio. Pour moi.
Pire, tu vois, étape au-dessus.
Voilà, exactement. Alors. Autant dire. Non, t'aurais dû répondre, mais c'est quoi cette interview? Séance shopping du samedi, quelle boutique vous trouvez terriblement vulgaire? Abercrombie, chez Colette ou H&M?
Oh là là.
Moi, Abercrombie, parce que je suis
Abercrombie, ouais.
Moi aussi,
c'est ça.
Par les vendeurs. Alors donc, pour un spectacle, ça sera plutôt Jean-Marie Bigard, Édouard Baird au Marigny ou Jamel Debbouze au Zénith?
Debbouze au Zénith.
Et moi, Édouard Baird au Marigny.
Ah bah évidemment. On commence déjà à voir un peu comment se distingue le plus dandy des deux.
D'ailleurs, j'ai vu à la française là, qui est génial.
Prendre un verre entre potes, c'est le bar du Mandarin Oriental, le Troquet du Coin ou apéro privé chez Pedro Winter?
Ah, putain.
La troisième. Privé chez Pedro. Encore 06 à Pedro, mais bientôt.
Destination vacances l'été prochain, Barcelone, la Caliente, la Bolsa au Frenchie ou Ibiza au clubbing?
Déjà, ouais, non.
Ibiza.
Ibiza, ouais. Ouais. Ibiza.
Ouais. Surtout que le Lio, c'est pas mal en ce moment. Attends, hein, ça vide d'aller à l'amnésia et tout, c'est vraiment pas mal. Hein. Alors, en tous les cas, pour finir, les Synapsons, on vous découvre petit à petit. Hein. Il y a vos singles, il y a vos albums. Mais quand pourra-t-on vous voir sur scène ou en live?
Alors, donc déjà ce vendredi-là.
Au Wanderlust.
Ah, ouais. Très, très, très bon choix.
Voilà.
Avec Cornial Unit, entre autres.
Voilà, exactement. Et la suite?
Et la suite, Paul, je ne les ai pas toutes en tête, mais à partir de janvier 2013, on attaque une résidence au social. Et là, les soirées vont s'appeler, ce sera la soirée Phénoménal, le samedi soir, le 5 janvier. Et on invite pour cette soirée Clan Carousel.
Ah, très très bien, Clan Carousel, justement, qui ont composé un autre morceau qui passe beaucoup sur FG en ce moment, qui s'appelle Zone Intense.
Ouais, bah, carrément, pour la musique, on adore aussi. Donc
c'est absolument magnifique, je crois que c'est des Autrichiens.
Exactement, on est content de jouer avec eux.
En tous les cas, les Synapsons, c'est un nouveau duo de la scène électro. Attends, au fait, excuse-moi, je suis sur du Coca-Cola, Paul. Tu n'as pas de résidence au Silencio?
Non, mais je suis signé chez Savoir-Faire.
En tous les cas, les Synapsons, c'est, bien envoyé, c'est le nouveau duo de la scène électro. Ils débarquent avec leur premier album Stendhal Syndrome. Et puis, c'était un plaisir de vous accueillir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Vous êtes toujours les bienvenus sur FG.
Octobre 2021, Antoine Baduel reçoit French 79.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir French 79. Un peu comme les chats, French 79 a eu plusieurs vies. Le Marseillais a été guitariste, chanteur, il a bossé dans différents groupes et c'est en 2014 qu'il a lancé sa carrière solo. Deux albums plus tard, il explose les codes de l'électro et propose un son invitant au voyage. Un son porté par son nouvel album, Joshua, dont on vous joue d'ailleurs un petit extrait, Hometown. French 79 est mon invité ce soir et à l'occasion de cette semaine spéciale Marseille où on vous fait un panorama justement pour vous présenter la richesse et la diversité des artistes et en particulier de la scène électro. Simon, bonsoir, bienvenue sur RFG.
Bonsoir.
Alors parler de ta musique, finalement, sans parler d'émotion, c'est finalement assez vain parce qu'il n'y a que cela quand on écoute ton album, une mélodie techno, aussi pop, parfois un peu club, un album aussi gorgé de souvenirs. Plus, j'allais dire, particulièrement d'émotion. Quelle était ton idée? C'était retrouver le son et les mélodies et les synthés de ta jeunesse?
C'était une idée importante sur cet album-là, mais c'est vrai que ça fait plaisir ce que tu dis, parce que c'est, pour moi, c'est quand même le plus important, c'est de faire passer des émotions dans la musique. Donc ça, que ça passe par la musique électronique ou que ça passe par une guitare ou un piano, le plus important c'est l'émotion, et c'est ce que j'essaie de faire en sortant des albums.
Alors cet album, il est sorti, alors finalement j'allais dire, il fait partie de ces albums avec une sortie et une vie atypique, sortie fin 2019, donc juste avant la crise sanitaire. Tu avais à peine débuté ta tournée mondiale quand a surgi le Covid. Est-ce que ça a été facile ou j'allais dire particulier de reprendre? Parce que bon, parfois on peut avoir d'autres inspirations, vouloir passer à autre chose, surtout quand on est artiste. Comment ça s'est passé pour toi cette reprise et ce bridge de 2 ans?
Bah, la reprise, ça se passe plutôt très très bien, parce que je suis très content de reprendre. Après, c'était plutôt le stop, comment je l'ai vécu. Après, j'ai l'impression d'avoir eu un peu de chance, parce que j'ai eu, quand je compare par exemple à mon ami Mathieu Kit Francescoli, que vous avez reçu,
qui était notre invité avant-hier,
qui lui a vraiment sorti son album et a fait un concert, je crois, à Londres, avant la crise sanitaire. Moi, j'ai eu la chance d'en faire une vingtaine ou une trentaine. Donc, j'ai senti qu'il y avait le truc qui prenait, que ça se passait bien, que de remplir les salles, ça fait plaisir et tout. Ça s'est arrêté. Finalement, là, ça reprend. Donc, ça restera, quoi qu'il arrive, un mauvais souvenir, mais je vais essayer d'effacer ces années de mon souvenir.
Alors, tu parlais de Kit Francescoli, et tu le sais bien, ta venue, elle n'est pas innocente cette semaine, puisque c'est une spéciale Marseille qu'on propose pour parler justement de toute cette dynamique, ce rayonnement, ce bouillonnement électro qui s'est passé notamment tout au long de l'été. Est-ce que la ville, et je sais que tu l'aimes, en témoigne le clip de Louise et Thelma, est-ce que la ville, elle inspire ton travail musical? Et si oui, comment?
Bah, elle l'inspire par une qualité de vie, je pense. Je sais pas si vraiment on peut dire ah oui, cet album il sonne Marseille, ou ce titre il sonne comme le bateau que je prends. Bon, c'est pas vrai en fait, mais c'est juste que la qualité de vie qu'on a là-bas, ce qu'on ressent quand on passe un été là-bas ou un hiver là-bas, fait que je pense ta musique ou ce que tu crées va sortir différent. Donc je pense que c'est quand même influencé par cette ville. Ouais.
Alors toi, Nto, Tilacine, Superpo, c'est vrai que vous formez cette scène française qui ne cesse de monter en puissance et qui se veut différente, onirique, posée, j'allais dire, terriblement feel good. Nto, par exemple, il sera d'ailleurs mon invité demain, il vient de faire un album en lien avec l'apnée. Toi, tu baignes ou tu te baignes, je ne sais pas comment on doit dire, si j'ose dire, dans l'univers aquatique. Pour preuve, le documentaire sorti vendredi, comment on retrouve tout ça dans ta musique? Est-ce que tu la conçois pour t'évader, pour mettre du son sur les images que tu as en tête?
Je dirais presque l'inverse, c'est-à-dire que je la conçois après m'être évadé. C'est-à-dire que je passe du temps sur mon bateau, je passe du temps en plongée, je passe du temps à essayer d'engranger dans ma tête ce que tu peux ressentir quand tu vois l'immensité de l'océan ou de la mer. Ça, c'est ce que j'adore, et c'est ce que après j'essaie de retranscrire en studio. Donc après, tu l'entends ou tu l'entends pas, mais en tout cas, moi, je le vis comme ça.
Fais-nous rêver, il est où l'anneau de ton bateau? L'anneau de ton bateau, fais-nous rêver, il est où?
Il est sur le vieux port.
Ah, quelle chance. Bah, provocateur. Pour la peine, on va s'écouter Louise et Thelma. C'est French 79, mon invité ce soir, avec le featuring très joli. On en parlera tout de suite de Vincent Delerme. French 79, mon invité sur FG pour savourer avec nous et avec lui ce soir et découvrir son album Joshua. Alors Simon, on parlait de ta musique, de ton album, un univers qui plaît, qui attire beaucoup de monde. D'ailleurs, tu as repris ta tournée qui avait été, on le disait tout à l'heure, stoppée net par le Covid. On en parlait tout à l'heure. Alors, quel public vient te voir? Est-ce que ce sont des initiés qui te suivent sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont des gens qui te découvrent à la faveur du bouche à oreille, ou est-ce que au contraire, ce sont peut-être des curieux qui ont entendu une performance comme ça sur un festival et qui ont vraiment envie de découvrir ton univers?
Bah, il y a forcément un peu de tout. Il y a, des jeunes qui me suivent depuis le début, des gens un peu plus curieux, tout ça. Mais après, le public qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'aiment pas la musique électronique et qui viennent me voir. C'est-à-dire qu'ils finalement viennent me voir après les concerts et qui me disent « Ouais, d'habitude, j'écoute pas du tout ça, mais là... Il y a un truc différent, un petit truc en plus ou un truc en moins peut-être, j'en sais rien. Mais ça me fait plaisir quand il y a ce public-là qui vient me voir.
Ouais, parce que c'est un public que, quelque part que tu éduques et que tu amènes justement dans ton univers et dans celui des musiques électroniques, c'est ça qui est génial.
Déjà, et en tout cas, moi c'est comme ça aussi que j'ai découvert la musique électronique. Avant j'écoutais Nirvana quand j'étais petit, enfin adolescent. Et puis j'ai découvert Daft Punk. Et je pense que Daft Punk, eux, ils ont réussi à toucher un public, je sais pas comment, mais un public qui écoutait pas du tout ça et qui a écouté ce premier album de Daft Punk et qui s'est dit et qui s'est mis à écouter ça en cachette en fait, en se disant il y a quand même un truc bien là-dedans, ouais. Et tout, alors qu'en fait normalement j'aime pas ça. D'habitude quand ça fait boum boum je dis non, ah non moi j'aime pas, j'écoute que du rock et tout. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu fier quand il y a des gens qui viennent me voir et me disent d'habitude j'aime pas du tout ça, et là franchement il y a un petit truc différent.
Alors il y a quelques secondes là, on vient de s'écouter Louise et Thelma, donc ton single avec que tu as créé avec Vincent Delerme. Mais elle s'est passée comment cette rencontre?
Oh bah, elle s'est passée très simplement parce que en fait on s'est rencontrés via l'intermédiaire de réalisateurs de clips qui enfin, voilà, on s'est rencontrés à Nancy d'ailleurs, ma ville d'où je viens, et il m'a proposé de faire un morceau sur son album parce qu'il aimait bien mon univers, et donc je lui ai proposé de venir chanter sur mon album tout simplement en retour.
Alors hier on évoquait avec Kit Francescoli, que tu connais bien, la ville de Marseille. Demain ça sera Ento qui est aixois. Est-ce que pour toi il y a une sorte de lien, alors on peut dire de connection, en tous les cas de lien entre les artistes? Est-ce que quelque part tu as l'impression qu'il y a à la fois une émulation mais aussi la volonté de faire des collaborations, des projets communs?
Bah oui, en tout cas, c'est ce qui se passe en réalité, puisqu'on fait tous des projets en commun. Moi, je viens de faire un morceau avec Anto, justement avec Ento, sur son album qui sort. Kit, c'est moi qui lui fais ses albums, lui me remix, etc., etc. Et en tout cas, il y a vraiment une volonté de faire un peu émerger cette ville, en tout cas d'en parler en positif, parce que j'ai l'impression qu'on en parle quand même souvent en négatif. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc avec Marseille, c'est-à-dire que, regarde, là je suis ici à Paris, on a beau venir de... J'ai l'impression qu'on me pose toujours des questions sur Marseille, que je sois à Clermont-Ferrand, que je sois à Lyon, que je sois à Nancy, que je sois à Lille. Alors Marseille, c'est comment? Donc c'est vrai qu'il y a quand même un espèce de truc qui fait que les gens ont envie de se dire qu'il se passe des choses là-bas.
Et c'est clair, et la preuve, tous les festivals qui sont déroulés cet été, à Contralous, au Delta, en passant par Mars Attack le Baou et le R2, je pense que la question c'est quel jour n'y avait-il rien à Marseille cet été, voilà. Quand même, c'était assez incroyable. Je crois que c'est la seule ville qui a eu la richesse de programmation qui a époustouflé tout le monde quand même.
Et même les gens qui n'aiment pas Marseille, souvent ils sont un peu curieux de savoir ce qui se passe et ce qui va se passer à Marseille.
Alors en tous les cas, c'est quoi ton spot préféré d'ailleurs à Marseille, toi? C'est celui où t'aimes te poser, parce que parlons pas forcément d'un endroit ou d'un club, mais l'endroit où finalement tu es le mieux.
Vieux port.
Le vieux port.
Mmh, ouais. Sur mon bateau.
Ah, sur ton bateau. Pas chez toi, sur ton bateau. On ne spoil pas l'adresse personnelle de French 79. Il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de fans en bas de chez lui. En attendant, il pourrait se limiter à la danse, au club. Mais l'artiste marseillais a beaucoup plus d'ambition avec son électro mélodique, savoureuse, enchanteresse. French 79, qui est à découvrir avec son très, très bel album Joshua. Et sur scène, dans le cadre de sa tournée, qui va l'emmener prochainement à Rennes, à Reims, Aix-en-Provence, Strasbourg et même à l'Olympia. Ça sera le 22 octobre prochain. Merci Simon, c'était un plaisir en tous les cas de t'accueillir.
Merci à vous.
Novembre 2018, Antoine Baduel reçoit Bon Entendeur.
Et oui, Bon Entendeur, un trio français qu'on aime beaucoup sur FG. Nicolas, Arnaud et Pierre sont à nos côtés pour nous présenter cette touche de légèreté. Un esprit bien français ce soir dans la Happy Hour. Bon Entendeur, c'est un trio qui a créé à la fois des bandes son très originales. Ça m'avait d'ailleurs valu le plaisir de vous accueillir, les garçons, il y a à peu près un an et demi, pour nous parler justement plutôt du travail de vos mixtapes. Et puis, évidemment, toujours une petite touche avec une électro à la fois chatoyante, très douce et des voix de personnalités charismatiques. Mais parmi les personnalités, on est très large. Aznavour, Beck BD, Boringer. Ça donne ses mixtapes, mais ça donne aussi des productions propres. Comme le dernier single, Le Temps est bon. Les Bon Entendeurs sont mes invités ce soir sur FG. Bonsoir les garçons.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous, Nicolas, Arnaud et Pierre. Donc vous venez de sortir Le Temps est bon, qui est le parfait exemple de ce qu'est Bon Entendeur. Un son chill, un son joyeux, un son un peu rétro aussi, et c'est assumé. Un morceau qui a été finalement, qui a eu deux vies sur FG. Ça fait presque près d'un an maintenant qu'on le joue dans le FG Lounge, donc l'émission du samedi dimanche matin et du dimanche soir, avec toujours une programmation francophone comme ça, très jolie, très, très enrobée. Et il est arrivé en journée, gros carton pour ce single. Mais alors là, il va falloir que vous m'expliquiez toute l'histoire de ce titre, parce qu'évidemment, à la base, c'est un original signé Isabelle Pierre et il date de 1972.
En effet, ouais, en fait, c'est une track qui est revenue un petit peu, enfin, qui est très connue là-bas. On s'en est rendu compte quand on est à Québec, qui est très très présente là-bas. En France, un peu moins, mais elle a été remise au goût du jour par Dolan, qui l'a mis à la fin de son film il y a quasiment 10 ans maintenant, Les Amours Imaginaires. Et donc, elle était un peu comme ça dans les inconscients collectifs. Et en fait, nous, on s'est repris un peu d'amour pour cette track-là quand on était en tournée avec l'Impératrice. Donc, c'est des copains avec qui on était partis en tournée et qui l'écoutaient tout le temps.
Et oui, avec lesquels on peut très facilement. Alors, l'Impératrice, qui est aussi un groupe français qui flirte avec la disco, avec la langue française. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on a comme ça des convergences aussi d'époques et des ponts entre vos styles et aussi ces époques à la fois des années 70 et très contemporaines. Alors Le Temps Est Bon, c'est un single qui annonce aussi, il faut le dire, un album sur lequel vous êtes en train de travailler. Tous les titres ont du même acabit, c'est-à-dire une voix un petit peu rétro et un son gorgé d'émotions et un peu électro.
C'est l'idée, ouais, que globalement notre album reprenne des vieux titres de la culture française ou en tout cas des titres francophones. Après, on va pas se restreindre à ne faire des remixes que de vieille musique française. On va aussi ajouter des prods originales sur lesquelles on va interviewer des personnalités qu'on a mis dans nos mixtapes déjà ou pas encore et qui feront partie de ces prods originales là. Voilà, donc c'est un peu en deux parties, mais avec un dénominateur commun autour de la francophonie un petit peu.
Alors ça, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a aussi une vraie profondeur dans l'écriture et justement autour des voix que vous mettez. Et ça m'intéresse vraiment d'en parler dans la deuxième partie de l'interview. Mais pour déguster, pour savourer votre travail sonore, il vaut mieux être tranquillement installé ou alors dans sa voiture, être posé, parce que c'est une musique qui quand même est assez onirique, qui incarne l'évasion. Je parlerais presque finalement d'une bande originale de film. Est-ce que c'est ça justement ce qui fonde votre travail, c'est-à-dire l'idée que la musique doit être jusqu'à l'extrême une valeur et un vecteur d'émotion?
C'est beau tout ça, hein. Ouais. Non, mais ouais, alors après, je sais pas si on pense autant à tout ce que tu viens de dire quand on fait ce qu'on fait, mais ça nous va assez comme définition. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Bon, ouais, enfin, faites-en le slogan de votre prochain de.
Ouais, c'est pas mal, faudrait que tu me notes.
Hey, écoute, ouais, on aime bien jouer avec la mélodie en fait de ce que les personnalités qu'on interviewe ou alors qu'on trouve sur internet disent. Et on essaie d'appuyer en fait un petit peu ce qu'ils disent avec de la musique, essayer de raconter une histoire. Mais c'est difficile quand même de se renouveler et trouver des nouvelles histoires à raconter avec, enfin, chaque mois ou en tout cas dès qu'on en sort une nouvelle.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, donc, on parlait des mixtapes. Alors il y a évidemment ce voyage, mais il y a surtout des astuces, la musique qui sonne terriblement française, on en reparlera, mais aussi ces voix, ces personnalités qui habillent vos mixtapes. C'est quoi ce travail? Il est venu comment au départ?
De 2012 donc à la création du projet, un an plus tard. En fait, pendant la première année, on a fait des playlists. Et c'est Arnaud, si je ne m'abuse, qui a entendu au festival Calvi on the Rock en Corse un son, Marcos Dos Santos, je crois, qui mettait DSK dedans, un bout de discours, je ne sais plus lequel. Et en fait, on a essayé.
Faut choisir le bon. Hein.
Et ouais, il faut.
Ben, c'était justement celui où il était sur le plateau de 20h TF1, okay. Où il essayait de s'expliquer sur
ce qui s'était passé aux États-Unis. Mais en fait, ses phrases étaient hyper belles et c'était hyper bien construit. Il disait rien, mais en même temps plein de choses. Et donc, on a trouvé ça hyper fort, hyper intéressant. Et on s'est dit qu'on allait le mettre sur une musique
pour tester. Ouais.
Ouais,
bon entendeur, le trio français composé de Nicolas, Arnaud et Pierre. Alors les garçons, on parlait de vos fameuses mixtapes tout à l'heure avec des voix de personnalités très connues. Du coup, on peut avoir aussi bien la voix de Simone Veil que celle de Beck Bédé qui habille le mix. Dernièrement d'ailleurs, c'est le comédien François Damiens qui s'y est prêté et on comprend que c'est pas la voix pour la voix. Il y a un message derrière. Vous piochez chez ces personnalités à la fois des instants, des moments de vérité où ils se livrent personnellement. Alors pourquoi? Parce que finalement, quelque part, vous donnez du corps à la musique, mais il y a aussi des symboles derrière.
Il y a aussi des symboles, il y a aussi plein d'idées. On n'a pas très envie d'ailleurs que les gens considèrent que c'est nos idées. En fait, c'est vraiment, on fait passer des messages, mais c'est très large et on ne veut pas du tout être calé dans un camp politique.
Oui, vous
n'êtes
pas enfermé, non, c'est très ouvert.
Voilà,
c'est un relais.
C'est un relais d'une parole qui nous semble intéressante à mettre en avant. Alors, en tout cas, mettre en musique.
Musicalement, justement, des sons très Frenchy. Ça, c'est bien. C'est vrai que vos sélections sont un petit peu à l'image de vos singles. C'est-à-dire toujours dans cette tradition française où on a une jolie programmation lounge. Et si on devait mettre des mots, finalement, sur ce que symbolisent aussi ces voix ou ces artistes comme Isabelle Pierre, qu'est-ce que vous diriez pour qu'on comprenne bien votre démarche? Parce que d'un côté, effectivement, il y a par exemple une Isabelle Pierre sur Le Temps est bon. Il y a parfois des discours. Moi, j'avais entendu aussi des. Il n'y a pas que du français, hein, il y a aussi des internationaux. Mais alors, du coup, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui réunit tout ça sur le choix des voix?
Le charisme, souvent, c'est un adjectif qu'on s'accorde tous les trois un peu à relever. Ils dégagent tous quelque chose d'un peu fort, d'assez intéressant. Ouais, ils sont relativement tous charismatiques.
La nostalgie aussi, un petit peu. La
nostalgie.
Oui, je pense que c'est ça.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes d'une époque parfois un peu passée. Alors, pour Damien, c'est plus actuel, mais il y a quand même pas mal de personnalités qui sont issues.
En fait, faut savoir si on parle des mixtapes ou des remixes.
Mais non, les deux. Justement, c'est ça qui est intéressant, qu'on parle de tout.
C'est difficile de.
Ouais, pardon. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien. C'est vos productions musicales, évidemment. Et là, pour le coup, on peut le dire, vous êtes vraiment à l'opposé du son clubbing, du son qui tape. Alors là, carrément, à des planètes stratosphériques de l'EDM ou des sonorités très commerciales. Est-ce que justement, vous vous identifiez pour le coup comme des artistes électro?
Électro, oui. Ouais.
T'as vu, t'hésites quand même.
Ouais, non, c'est clair. Oui, on peut dire que oui, je pense. Oui, c'est clairement ça, puisqu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des vieilles musiques et puis qu'on les rend un petit peu plus électroniques. Donc oui, on est artistes électro. Après, c'est vrai qu'on. Comme tu disais tout à l'heure, le temps est bon, c'est un peu un ovni. On ne sait pas si on le joue la journée, le soir. C'est pas.
C'est ça qui est drôle d'ailleurs, hein, parce que sur FG, par exemple, typiquement au début, on s'était dit, mais c'est un super morceau pour le matin. C'est vrai que c'est un morceau un peu hymne du FG Lounge. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était le soir qui passait le mieux. Enfin, tu vois, dans les mix, avec un son finalement où quelque part c'était un peu une pause, avec au milieu de sonorités plus DJ. Alors finalement, quand on entend parler de c'était mieux avant ou de gens qui sont dans la nostalgie. Moi, j'ai l'impression que votre démarche, elle sublime quelque part des icônes, des images d'Épinal. Et ça, c'est vachement intéressant parce que vous glorifiez à la fois des images d'Épinal, une France positive qui savoure la vie, aussi qui savoure les petits riens. Est-ce qu'il y a une démarche politique dans tout ça, tout au moins au sens noble du terme?
Alors, il n'y a pas forcément. Non, il n'y a pas de démarche politique. Il y a un côté nostalgique, mais sans considérer que. Enfin, on ne veut pas se dire que c'était mieux avant. Et il y a une vision quand même hyper optimiste. Ou en tout cas, on essaie de véhiculer une vision optimiste de par les choix des discours qu'on va intégrer à nos mix.
Octobre 2018.
Antoine Baduel reçoit
Jack Back.
David Guetta, mon invité fil rouge ce soir pour fêter sur Radio FG aujourd'hui même la sortie de l'album 7. David, on va parler de Jack Back à présent, de cette deuxième partie d'album que tu as signé sous ce pseudo qu'on connaît bien puisqu'il y avait déjà eu quelques projets par le passé. Alors, il y a tout un dit justement consacré à cet alias Jack Back qui renvoie d'ailleurs à tes débuts underground à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas ce pseudo, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous rappeler brièvement d'où il vient et ce qu'il signifie pour toi?
Non, mais parce que, alors, au tout début de la house, quand je commençais à jouer, alors là, je parle de. Ça date pas d'hier. Là, je parle de 88, quand j'étais au Broad et que je faisais une des premières soirées house à Paris, si pas la première. Je crois qu'il y avait deux DJ qui jouaient de la house, il y avait Laurent Garnier et moi. On faisait même pas d'ailleurs la différence à l'époque vraiment entre la techno et la house parce qu'il n'y avait, pas assez de production, donc on mettait un peu de tout. Mais à ce moment-là, c'était le mot de Chicago, c'était Jack. Et c'était un peu le mot qui représentait cette musique-là. Donc c'est pour ça Jack Back, parce que un peu c'est un retour pour moi à mes racines et je suis ravi de le faire. Et pourquoi alors? Parce que j'ai discuté avec plein de DJ en leur disant que je faisais ça. Mais il y en a plein qui m'ont dit mais pourquoi? Écoute, nous on le sait que t'es là depuis le début. On t'a pas. C'est David Guetta et puis c'est tout. Mais en fait moi le truc c'est plus si jamais je veux faire une soirée. Et jouer dans un club, je veux que ce soit clair que quand je fais une soirée Jack Back, je veux pas décevoir des gens qui voudraient écouter les tubes David Guetta. Donc au moins, en fait, c'est juste
Voilà, il y a Coca Rouge et Coca Light. sait ce que ça veut dire.
Et c'est marrant parce que l'underground, c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur. Tu as toujours été engagé en la matière. Tu as toujours aussi une vraie fidélité au son qui nous renvoie à tes années, Queen, Palace, Les Bains. Tu ressentais justement aussi le besoin, alors, de faire revivre aussi cette époque. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un comeback dans la musique, au niveau des goûts des gens, du public. Est-ce que tu avais envie, quelque part, toi aussi, de faire revivre ces moments extraordinaires qui se sont peut-être perdus avec la popularisation de l'électro?
Bah exactement, c'est exactement ça. Mais de le faire d'une manière nouvelle. En fait, parce que depuis qu'il y a un retour de la house depuis déjà un bon moment, depuis...
Ça fait 3-4 ans.
Ouais, 3-4 ans, voilà. Mais en particulier en Angleterre, il y avait un retour de la house vraiment façon années 90. D'ailleurs, moi, j'allais dans les soirées et j'avais l'impression de m'écouter au Queen en 92. Et pour moi, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Je comprends que pour des gens plus jeunes, ça puisse en avoir un. Mais moi, je l'ai déjà fait, donc c'était pas tellement excitant. Et je trouve qu'en ce moment, il y a avec des gens comme Kamel Fat, il y a un retour de la house, mais avec un son nouveau. Et alors moi, j'aime bien quand même regarder vers l'avenir. C'est ça que je trouve excitant. Et donc c'était ça, c'est ça que je fais. Et donc j'ai pris certains samples de mon set des années 90, sauf que je les ai produits d'une nouvelle manière, ce qui est le cas par exemple avec Sometimes. Je sais que tu t'as
oui, bien, moi si tu veux, Sometimes pour moi c'est typique du morceau. Alors on va s'en écouter un petit extrait. On vous le joue beaucoup hein, sur FG, notamment dans le Starter FG. Écoutez. Voilà, et là on est en plein dans un son où on mélange à la fois un son tech house et en même temps des voix qui rappellent ces divas new-yorkaises, ces productions Strictly Rhythm, les fameux Believe, les Barbara Tucker, tous ces standards des années 90. Et c'est marrant parce que moi j'ai fait une balance un peu perso, tu vois, mais entre d'un côté le drive de Black Coffee qui appelle aussi à une certaine mélancolie, cette house qui était à l'époque celle qu'on pouvait entendre en radio, et cette house là pour le coup plus underground, plus
c'est ça. Alors pour moi le drive, ce serait plus une référence à Everything But The Girl, Miss You, c'est
des Ross morceaux... Snake, Everybody Be Somebody.
Voilà, alors bon, des morceaux qui sont plus dans l'émotion, avec un petit côté pop, et puis d'autres, comme Sometimes, qui sont purement house, où c'est un groove, un truc assez répétitif, quoi. Et ça fait du bien pour moi de faire des titres sans me dire, si c'est pas top 10 dans le monde entier, c'est une catastrophe.
C'est génial. Et ben voilà, c'est génial. Alors, ce qui est marrant, c'est pour le coup, libre comme l'air, tu crées aussi des prods comme Overturned, par exemple, qui a été posté récemment. Nous, on l'a relayé beaucoup sur les réseaux sociaux sur FG. Il faut dire qu'il est très très bon, hein. Et là, on constate des retours super positifs. Comment t'expliques justement, pour le coup, l'engouement aussi rapide du public? Est-ce que c'est parce que c'est la signature David Guetta, d'après toi, ou tout à coup, t'as l'impression que c'est...
Non, je crois pas, parce qu'en fait, ce morceau-là, c'était assez drôle d'ailleurs, on l'a envoyé à tous les DJ les plus spé de la planète, sans dire que c'était moi, et les retours étaient énormes, et ça me faisait rire, parce que je me disais que si jamais ils avaient reçu un disque David Guetta, il n'aurait certainement même pas écouté, parce que, non pas parce qu'il n'aime pas ma musique, mais parce qu'il se dirait que c'est pas pour eux. Et parce qu'on se connaît tous et on se respecte tous, mais c'est vrai qu'on a chacun nos styles et que a priori des gens de l'underground, ils se disent bon, un titre David Guetta, c'est pas underground, donc je vais pas le jouer. Et donc c'était assez sympa de voir des réactions aussi positives dès le départ.
Alors tu sais, c'est très drôle justement ce dont tu parles, parce que moi j'ai l'impression que pendant une vingtaine d'années, il y a eu toujours ce fameux clivage, c'est underground, c'est commercial. Et en la matière, c'est vrai que le milieu underground est parfois un peu vache, un peu sectaire, ils sont,
ouais, bien
sont
sûr,
durs,
bien sûr. Surtout dans la techno d'ailleurs.
Surtout dans la techno, c'est-à-dire ils font pas de cadeaux et ils ont parfois été critiques à ton égard. Est-ce que justement le projet Jack Back, c'est pas aussi une manière de montrer que aujourd'hui toutes ces digues, toutes ces frontières, elles sont moins marquées?
Ouais, moi j'y crois plus du tout.
Que c'est très apaisé et que quand on a envie de s'exprimer, on peut exprimer un projet pop et j'allais dire simultanément quelque part.
Non, mais bien sûr. Moi je crois plus du tout aux barrières dans la musique. Aujourd'hui c'est l'ère du streaming, les gens ils écoutent de tout, Et ça, tout ça, ça veut plus rien dire pour moi. Et en plus, même le concept d'underground pour moi ne veut plus rien dire parce que quand je regarde à Ibiza, bon, que je connais très très bien, et si tu fais une analyse, on va dire un petit peu part de marché du clubbing à Ibiza, 80% des tickets vendus à Ibiza sont des DJ qu'on appelle underground. Donc ça veut dire que c'est plus underground.
Ben oui.
Parce que quand tu fais une soirée avec 10 000 personnes, c'est pas underground. Underground, c'est quand tu fais une soirée avec 200 personnes. Donc tout ça, ça veut plus dire grand chose. Les gens, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie d'écouter de la bonne musique. Et puis de la techno, de la house, de la tech house, que ce soit de la pop, que ce soit du hip-hop. Moi, j'ai l'impression que les jeunes, ils écoutent de tout, quoi. Et c'est très bien comme ça. Et moi, en tout cas, en tant qu'artiste, j'ai plus aujourd'hui envie de juste rentrer dans une boîte et cocher des cases, quoi. J'ai envie de toucher à tout.
Et je finirai surtout en disant une chose, c'est que l'underground d'aujourd'hui nourrit d'ailleurs la musique et du coup, forcément, la pop de demain.
Ah ben,
tout simplement.
Évidemment.
En tous les cas, David, c'était un plaisir de fêter aujourd'hui sur AFG la sortie de ton album Seven. Merci en tous les cas, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Évidemment, David, on le retrouve tous les samedis. Ça fait presque 20 ans que c'est comme ça sur AFG pour sa résidence hebdomadaire. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous dans la P-Hour pour la sortie de